Alors, bonjour Philippe Purteau. Le premier chapitre s'appelle l'austérité en éducation. Peut-être qu'on peut commencer par là. Est-ce que l'austérité en éducation est d'abord bien réelle? Puis peut-être qu'on pourrait brosser un portrait de ce que ça implique, quelles conséquences ça a eu.
Oui. Bien, en fait, la première question, c'est est-ce qu'il y a eu austérité en éducation ou pas? Le gouvernement s'entête à dire que non. Quand on regarde les chiffres, à la base, on est un peu obligé de lui donner raison. Parce qu'on regarde de 2003 à 2017, les budgets d'éducation ont augmenté de 2,5 milliards de dollars, une augmentation assez importante, là, de 35 %. Donc, on dit si l'austérité, c'est une diminution des budgets, bien là, ils augmentent. Évidemment, ça nous, une augmentation en valeur absolue ne nous dit pas grand-chose parce que les dépenses en éducation, elles fluctuent. Aussi, hein, sont pas stables. Les besoins sociaux, les besoins du secteur sont pas stables. Donc, il faut être capable de comparer l'évolution des budgets avec l'évolution de ce qu'on appelle les coûts de système. Les coûts de système, c'est ce que ça coûte reproduire d'année en année l'état des services. Donc, maintenir la machine à flot, finalement. Donc, pas améliorer les services, juste les maintenir. Quand on compare donc l'évolution des subventions à l'évolution des coûts de système, on se rend compte qu'il y a bel et bien eu austérité budgétaire en éducation au Québec. Si les subventions de fonctionnement que l'État verse aux commissions scolaires, donc ce qui finance essentiellement les écoles, s'élèvent à 9 milliards par année en ce moment, si ces subventions avaient suivi les coûts de système depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir, donc depuis 2003, elles seraient à 10,4 milliards de dollars. Donc, c'est 1,4 milliard d'écart entre le financement réel et les besoins. Et ça, c'est simplement pour quand on regarde les subventions de fonctionnement, on ne parlera même pas des diminutions d'état scolaire qui viennent aussi enlever des ressources aux écoles. Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément important à dire là-dessus, c'est que ce 1,4 milliard de sous-financement, il s'est creusé depuis 2003. On aurait pu remonter avant, mais bon, on a pris 2003 comme année de référence. Mais le trois quarts de ce montant-là a été creusé depuis 2011, c'est-à-dire depuis l'application du plan de retour à l'équilibre budgétaire sous Raymond Bachand, qui était ministre des Finances à l'époque, et qui a été exacerbé par l'austérité voulue par M. Couillard et M. Létard. Donc, on a vraiment un phénomène de sous-financement qui s'étend sur 15 ans, mais qui s'intensifie dans la période plus courte là, du retour à l'équilibre budgétaire et de la période d'austérité qu'on a connue là, depuis 2011-2014. Et voilà, pour la présentation des données. En termes d'impact, c'est sûr que quand on regarde au niveau macro les chiffres, on a un peu de difficulté à bien voir les impacts réels là, au niveau terrain parce qu'on adopte le point de vue un peu du ministre des Finances, là, donc un point de vue un peu en haut des choses. Là. Mais c'est sûr qu'après ça, ce serait intéressant qu'on parlera tantôt dans le sondage, les impacts réels se font sentir sur le terrain, par exemple, en dégradation de la collaboration entre collègues, dégradation des rapports entre administration et gestionnaire et employés. Une absence de ressources suffisantes aussi pour bien faire le travail. Donc, il y a plein d'éléments qu'on pourra peut-être voir là, à travers les résultats du sondage.
Revenu régulièrement dans les résultats, souligner le nombre, de pointer le nombre, la hausse du nombre d'élèves en difficulté par classe et puis le manque de ressources. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Parce que je comprends que ça apparaît pour chacune des catégories, donc pour les enseignants, pour le personnel de soutien, puis pour les professionnels. Il y a donc quelque chose là qui a été affecté directement?
On peut le voir très directement. Hein? J'essaie de voir les données. Là. Les gens, quand on dit à tous les secteurs confondus, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer l'état de l'éducation au Québec? 45 % des répondants, donc toutes catégories confondues, disent qu'on devrait augmenter les ressources pour les élèves en difficulté. Les enseignants, ils disent à 47 %, les professionnels à 33 %, le personnel de soutien à 43 % aussi, donc des gens qui ne sont pas directement liés là, à la réalité de la classe, là, pour le dire comme ça. Donc, il y a un assez bon consensus et c'est la réponse qui sort le plus fort. Les seules réponses qui sortent un peu plus fort que ça, c'est de dire « payez-nous davantage ». Donc, ça, il y a aussi un intérêt bien senti des gens. Mais sinon, il y a un consensus assez fort. On aurait pu penser que simplement les enseignants, par exemple, ou simplement les professionnels qui offrent le soutien, veulent plus de ressources. Mais non, c'est assez transversale, pour le dire comme ça. Donc, ça montre que ça a été attaqué, mais aussi ça montre, et là, ça, les gens le sentent et le disent bien, qu'il y a de plus en plus aussi de jeunes en difficulté dans les classes. On sait que au début des années 2000, environ 10 % de la cohorte étudiante était composée de jeunes en difficulté. Aujourd'hui, on dépasse le 20 % là, au secondaire, là, j'entends. Donc, une augmentation assez importante là, en l'espace d'à peine une génération. Donc, quand on parlait tantôt de manque de ressources, que les budgets ne suivent pas, c'est ça que ça veut dire aussi les coûts de système. C'est-à-dire pour maintenir la qualité des soutiens aux élèves, bien, il aurait fallu que les budgets augmentent de manière beaucoup plus substantielle parce que les cas à gérer dans chaque classe sont plus lourds aujourd'hui qu'en 2003, qu'en 2007, et ça va s'alourdissant d'année en année comme ça.
Il y a, pendant qu'on parle des services aux élèves en difficulté, il y a une donnée intéressante qui apparaît dans le rapport. On parle des élèves HDAA non reconnus. Quand on travaille auprès là, de personnel de l'éducation, c'est quelque chose dont on parle, mais qui n'est pas chiffré. Là, ça apparaît dans le rapport. C'est donc assez important pour que vous le souligniez. Là.
Oui, bien, ça, c'est important. Et ça aussi, c'est une opinion assez forte. Hein? Plus de 81 % des enseignants nous disent « J'ai dans ma classe des jeunes qui n'ont pas de diagnostic, mais qui devraient en avoir. » Donc, j'ai dans ma classe des cas lourds qui, concrètement, pour moi, sont aussi lourds qu'un cas diagnostiqué, finalement. Mais je n'ai pas les ressources pour m'accompagner. Résultat de ça, déjà, on disait tantôt, hein, 20 % un peu plus de 20 % un élève sur 5 est déjà diagnostiqué. Mais il y a une part importante qui vient s'ajouter à ça, mais qui n'a pas les ressources qui suivent. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des enseignants qui doivent utiliser de leur temps d'enseignement et d'accompagnement pour l'ensemble des élèves et le rediriger vers un accompagnement plus soutenu pour certains élèves particuliers en difficulté, ce qui ne répond pas aux besoins de l'élève en difficulté, puis ce qui vient nuire au temps disponible, parce que bon, l'enseignant n'a pas 8 bras, là, au temps disponible qu'il peut donner aux autres étudiants. Donc ça, c'est vraiment une spirale, en fait, qui participe d'une dégradation généralisée de la qualité de l'enseignement, qui paraît pas statistiquement, mais qui paraît beaucoup, et c'est pour ça que c'est intéressant dans le sondage, paraît beaucoup dans les rapports plus qualitatifs qu'on a reçus, les réponses que les gens nous ont données, nous disent, bien, précisément ce que je viens de vous dire, pour réussir à suivre et donner un soutien à peu près adapté à la réalité d'un jeune en difficulté, mais qui n'est pas reconnu officiellement, bien, il faut que je sacrifie le travail que je pourrais donner à des élèves qui, eux, réussissent bien ou des élèves, mais qui auraient quand même besoin de support malgré tout pour les aider à se développer. Donc, c'est une logique un peu de pompier. Hein? Quand on est un pompier, on s'intéresse à éteindre des feux, puis quand il y a un feu, on ne s'intéresse pas beaucoup à la prévention, à l'incendie. Mais dans les classes, l'impression que ça donne, c'est que présentement, il y a toujours des petits feux allumés partout, donc ben, ils n'ont plus beaucoup de temps pour travailler à la prévention.
Le climat de travail, on en a parlé d'abord un petit peu, là. On comprend donc que le climat de travail est affecté nécessairement. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Comment on pourrait…
Bien, ce qu'on nous dit, c'est que le climat est bon. Le climat est bon au sens où les gens majoritairement ont des bonnes relations avec leurs collègues, des bonnes relations avec leur direction d'école, des bonnes relations… Avec les parents, c'est plus compliqué. Ça fait partie de leur condition de leur relation. Les relations sont bonnes. Globalement, les réponses sont majoritaires, 60-70 % d'opinions favorables. Les relations sont bonnes. Mais encore là, on a toujours un 20-25 % de gens qui nous disent « Elles sont bonnes, moi, elles sont moins bonnes qu'il y a 5 ans. » Donc, présentement, si je regardais simplement la photo aujourd'hui, sans m'intéresser à l'évolution, je dirais « Ah, ben voilà, les gens disent que les relations de travail, ça va bien, les relations avec les collègues sont bonnes, avec la direction, grosso modo, ça va bien, les accrochages ici et là, mais rien d'anormal disons, dans les relations de travail. Mais puisque ça, c'est la photo d'aujourd'hui, mais on a dit aux gens, rappelez-vous donc de la photo d'il y a 5 ans, avant l'arrivée de Philippe Couillard au pouvoir, finalement. Est-ce que c'est pire aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Et pas majoritairement, mais quand même un bon quart des répondants nous disent « oui, on a l'impression que ça s'est détérioré ». Alors ça, c'est pas une donnée qui nous permet de dire, tu sais, de taper du poing sur la table en disant « voici un constat fort de détérioration des conditions », mais c'est quand même un résultat assez significatif pour dire « il y a quelque chose là qu'on doit regarder, qu'on doit s'inquiéter, parce que quand c'est rendu qu'une personne sur quatre témoigne systématiquement d'une dégradation, c'est pas… » c'est pas une donnée aberrante ou une lubie, c'est pas 2%, on dit ben là, c'est une personne qui est un peu fâchée, puis voilà, là. C'est quand même un quart du personnel qui le remarque. Ça veut dire qu'il se passe effectivement quelque chose. Là, après, il faudrait fouiller davantage pour mieux le comprendre, mieux le définir, mais ça nous dit qu'il y a un enjeu.
Est-ce qu'il y avait quelque chose qui a été mesuré de plus particulier avec les relations entre le personnel et les gestionnaires ou les directions d'école, par exemple, le personnel cadre?
En fait, ce qui a été mesuré, c'est bon, la nature de la relation. Est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas bien? Bon. Ce qui a été mesuré aussi, c'est avez-vous le support de votre direction? Sentez-vous que votre direction est de votre côté, donc est là pour vous aider dans votre travail, ou le corollaire négatif de ça est plutôt là pour passer des directives qui viennent soit de la commission scolaire ou bon, du ministère. Encore là, les gens disent non, on a l'impression que les directions d'école sont plutôt nos alliés, au sens qu'ils travaillent réellement pour le bien-être de l'école, mais ils nous disent aussi en même temps, dans les témoignages, on sent que les directions sont sous pression à cause des mécanismes de reddition de comptes et que, oui, ils travaillent pour l'école, mais le moyen trouvé par les directions de mieux travailler pour l'école, c'est réussir à se faufiler dans les mécanismes de reddition de comptes. Donc, comment réussir à transformer certaines pratiques ou les présenter autrement pour les faire rentrer dans les demandes de reddition de comptes? Ce qui, quand on fait le premier pas dans cette direction-là, pour jamais vraiment trop de problèmes, c'est rendu toujours au quatrième, au cinquième, au sixième pas d'adaptation que l'on se rend compte qu'on commence à dénaturer la nature même d'une école. Donc là, il y a encore plus une préoccupation qu'un constat fort, mais ils nous disent que la relation est bonne, mais ils sentent que les gestionnaires, si la relation est bonne, ils sentent que les gestionnaires ont moins le temps de venir les appuyer plus concrètement en fonction des enjeux terrain. On est plus proche de gestionnaires qui essayent de tenir un équilibre entre les directives qui leur viennent de Québec, les enjeux terrain, et voilà. Puis même souvent, ce qu'on a su à certains témoignages, là, pas majoritaire, mais à certains témoignages, des gens qui disent « c'est ça, là, ils sont plus occupés à nous expliquer pourquoi il faut revoir certaines pratiques, parce que c'est ça qui est bien, parce que c'est ça qui va nous permettre de justifier telle dépense au niveau du ministère. » Donc là, on tombe dans un univers un peu de dérive managériale, mais ça, c'était pas majoritaire comme témoignage, mais ça a existé, disons, dans ce qu'on a reçu.
Une petite préoccupation là, sur l'ensemble, mais qui pourrait, dans une perspective de dégradation, si on
tout à fait
éviter que cet élément-là prenne plus de place dans la photo, si on reprenait la photo dans 5 ans, si on continuait dans la même...
Ça serait intéressant, effectivement, et surtout qu'on sait que et ça, c'est un dada assez répandu là, en gestion publique aujourd'hui, dès qu'il y a un problème quelque part, la solution, c'est introduire un mécanisme de reddition de compte supplémentaire en pensant que ça va tout régler. Si ce processus-là vient à s'implanter encore davantage dans les écoles, bien, le système scolaire risque de connaître à terme le même niveau de dysfonctionnement que le système socio-sanitaire, c'est-à-dire ça en vient assez compliqué parce qu'effectivement, les gens sont plus préoccupés à fournir des données au ministère de la Santé qu'à effectivement guérir le monde. L'éducation n'est pas rendue là encore, mais la direction, c'est malheureusement vers ça. Après ça, il ne faut pas crier, il ne faut pas capoter, là, mais il est peut-être temps d'avoir un petit sursaut collectif pour se dire, est-ce que c'est vraiment de réforme de gouvernance, est-ce que c'est vraiment de réforme de reddition de comptes que les écoles ont besoin, ou pas plutôt de s'adapter à la réalité des classes. Hein, c'est que souvent dans les approches plus en gestion, on se demande comment adapter la classe au processus de gestion, quand normalement on devrait plutôt adapter les processus de gestion à la classe, et c'est pas le genre de dynamique qu'on connaît présentement.
Il existe des solutions? Est-ce qu'il y avait des solutions, des pistes de réflexion là, vers lesquelles le rapport a pointé?
Les solutions les plus populaires, là, je dirais la plus populaire, une diminution du nombre d'élèves par groupe. Vu que les groupes sont de plus en plus lourds, au moins qu'on ait moins de gens à gérer. 60% des répondants nous disaient ça comme solution et tout le monde était assez d'accord. Hein?
Toutes catégories confondues.
Oui, 60%. Évidemment, 67% d'enseignants, 33% de professionnels, mais même 50% du personnel de soutien, ce qu'on aurait pu penser ceux qui sont le moins préoccupés par effectivement le nombre d'élèves par classe. disent une bonne moitié, nous disent non, on devrait diminuer le nombre d'élèves par groupe. Ensuite, comme je disais tantôt, l'augmentation des ressources pour les élèves en difficulté, et là, fait un bon niveau de réponse, toutes catégories confondues, encore une fois. Et après, bien évidemment, là, les autres réponses populaires, c'est tout ce qui touchait l'amélioration des conditions de travail réelles respectives, soit engager plus d'enseignants, engager plus de personnel de soutien, engager plus de professionnels, ou augmenter les salaires, bon, respectivement, de chacun des corps d'emploi. Ce qui peut être intéressant, c'est citer quand même les exemples qui n'étaient pas populaires. Parce que ça peut être intéressant à savoir, parce que si, par exemple, on entend un jour des partis politiques les proposer, ben, ça nous donne une idée que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'appétit pour améliorer les conditions de travail des directions. On n'est pas très surpris. Aucun appétit pour augmenter les subventions aux écoles privées et très peu d'appétit aussi pour donner plus de pouvoir aux commissions scolaires. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant à voir dans le portrait. C'est quoi l'attachement du personnel envers l'instance qui est la commission scolaire? Le sondage, soulève des questions.